Bonjour chers amis, bienvenue à cette journée de pleine conscience. Je m'attendais à ce qu'il fasse une grosse tempête et là on a eu du beau soleil ce matin, là c'est merveilleux. Donc nous sommes le 16 octobre 2011 et nous sommes à l'Institut de pleine conscience appliquée de Montréal pour une deuxième journée de pleine conscience sur le thème de des quatre établissements de la pleine conscience. Je ne sais pas qui était ici le mois dernier. Si vous n'avez pas été là, le mois dernier, ce n'est pas très grave. Il suffit d'être ici maintenant. Et c'est ça qui est le plus important. L'autre enseignement du mois dernier est le même enseignement qui a été donné il y a 2600 ans par le Bouddha. Alors, il a pu attendre 2600 ans, un mois de retard, ce n'est pas plus grave que ça. Mais le mois dernier, ce que j'avais mentionné, c'est que c'est un enseignement très important. C'est l'enseignement de base de toutes les pratiques et de tous les pratiquants de la méditation de pleine conscience. Et quelle que soit l'école où nous allons, nous devons, ou bien toutes les écoles de méditation que je connais et qui sont et que je respecte, pratiquent selon les quatre établissements de la pleine conscience. Si vous voulez prendre un tourisme bouddhique, un pèlerinage, ou une retraite intensive de méditation, le même enseignement se donne par les moines thaïs de la forêt, et ils donnent des retraites de 3 mois sur ces 4 établissements de la pleine conscience. Alors donc, si après l'année que nous allons suivre ici, vous trouvez que ce n'est pas assez, vous pouvez toujours vous inscrire et je vais vous donner les coordonnées pour vous inscrire pour une retraite d'hiver en Thaïlande. C'est très recommandé. Et si on peut s'offrir ça une fois dans une vie, ça serait merveilleux. Alors, vous me direz. Mais en attendant, on va faire du mieux qu'on peut au Canada. Et si on pratique selon les 4 établissements de la pleine conscience, on peut être dans un monastère thaïlandais, au Canada, ici aussi. Et vous êtes en plein dedans. Alors, donc, imaginez-vous assis comme le Bouddha nous l'enseigne. Comment est-ce qu'il l'a dit? Voilà. Il se rend au pied d'un arbre dans la forêt ou dans une pièce vide. Alors, vous pouvez vous imaginer maintenant au pied d'un arbre dans la forêt. S'asseoir les jambes croisées dans la posture du lotus. Vous pouvez être dans la position du lotus ou dans la position que vous choisissez. Maintient son corps droit. Et établit la pleine conscience devant lui. Le mot « pleine conscience » devant lui est un mot important. Parce que « pleine conscience », ça peut être vague, ça peut être une idée. Mais lorsqu'on la met en avant de nous, ça nous permet de pouvoir concentrer notre attention puis le regarder. Alors, c'est ça que le Bouddha enseigne, c'est de mettre cette pleine conscience en face de nous pour pouvoir la regarder et l'observer. Alors, la pleine conscience devient notre objet d'observation. Il inspire, conscient qu'il est en train d'inspirer. Il expire, conscient qu'il est en train d'expirer. Alors, c'est ça que nous allons faire ensemble au son de la cloche, s'il vous plaît. Merci. Donc, pour cette deuxième journée, je vais commencer par vous faire un petit rappel de ce que nous avons parlé la dernière fois. Alors, la dernière fois, je nous avais introduit aux 5 obstacles et aux 3 poisons. Les cinq obstacles que nous avons regardés, c'était pour nous situer, c'était pour nous rappeler pourquoi nous voulons embarquer dans cette pratique. Et ensemble, nous avons vu qu'il y avait plusieurs choses qui étaient aussi appelées les trois, donc qui étaient aussi appelées les trois poisons, et pour lesquelles on voudrait, ou bien pour lesquelles on veut pratiquer, afin de nous en soulager. Alors il y a naturellement les trois qu'on connaît, les trois poisons, l'avidité, qui nous cause des souffrances en nous et autour de nous. Il y a la colère, cette colère qui nous prend et qui nous fait perdre notre esprit et qui nous cause aussi beaucoup de souffrances, non seulement à nous, mais aussi aux personnes qui sont les victimes de notre, de nos crises ou bien de nos expressions de colère. Et ces deux poisons, en fait, sont des différentes manifestations du poison de base qui est notre ignorance. Alors donc, ce sont ça qui sont considérés comme les trois poisons, l'avidité, la colère et l'ignorance. Selon, en tout cas, je crois que il y en a beaucoup d'autres que ces trois, mais à la base de tout, à la base de toutes ces poisons, c'est vraiment l'ignorance. Et combien de fois je me suis aperçu dans ma propre vie, par cette pratique, comment j'ai pu souffrir moi-même, comment j'ai pu créer de la souffrance. Et lorsque je me donne la chance de pouvoir revenir, de pouvoir pratiquer les quatre entraînements à la pleine conscience, je veux dire les quatre établissements de la pleine conscience, revenir dans le corps et que je m'assois, je finis toujours par voir que cette souffrance était complètement inutile et elle a été causée. Elle a été causée par une seule et unique raison, mon ignorance. Et c'est ça qui est le pourquoi nous voulons pratiquer les quatre enseignements, à la pleine, les quatre établissements de la pleine conscience. Alors c'est pour nous rappeler pourquoi nous voulons pratiquer. Nous voulons pratiquer premièrement parce que nous souffrons. Nous souffrons ou bien nous avons causé de la souffrance. Nous ne voulons plus souffrir, nous ne voulons plus causer de la souffrance. Comment faire? Comment faire pour le faire? Et donc c'est pour nous rappeler les raisons premières du pourquoi. Et ça aussi, ça fait partie de la pleine conscience. Pourquoi nous faisons les choses? Alors donc, toujours garder cet objectif en mémoire, en tête, pour se souvenir du pourquoi nous le faisons. J'avais aussi donc mentionné les cinq obstacles qui sont ceux qui... Donc on sait qu'on souffre, on sait qu'il y a des façons de faire, mais somehow on peut pas le faire. Il y a toujours quelque chose qui... c'est comme manger en pleine conscience, manger santé, faire des exercices, se brosser les dents, etc. Toutes des choses qu'on sait qui sont pour notre bien. On le sait. Mais on ne le fait pas. Et pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? À cause des obstacles. Et le Bouddha a identifié cinq obstacles pour la pratique des quatre entraînements, des quatre... Pourquoi j'utilise toujours quatre entraînements? Les quatre établissements de la pleine conscience. Alors, je vais vous les remontrer. OK. Le désir. Le désir, c'est cette force, cette énergie... qui nous pousse à nous éloigner ou bien à être à l'extérieur de la place où on veut être dans notre pratique, c'est-à-dire ici et maintenant. Désir, c'est ce vide que nous ressentons et que nous pensons qu'il ne peut se satisfaire qu'avec d'autres choses qui n'est pas ici. Alors pour moi, j'ai eu plein de désirs. Comme par exemple quitter le Vietnam pendant la guerre. Je ne pouvais pas être là parce que c'était trop dangereux, parce que j'avais peur, parce que mes parents ont peur, etc. Alors donc, mon désir, c'était de sortir du Vietnam. Alors, tout le temps où j'étais au Vietnam, mon obsession, mon désir, c'était de sortir de là. Alors, si vous me demandez comment ont été les premiers 18 ans de ma vie, I don't know. Je ne sais pas parce que je n'étais pas là. J'étais toujours pour ce qui va se passer après. Et quand j'ai eu, quand j'ai réussi mon baccalauréat, j'ai appliqué pour beaucoup de pays pour pouvoir sortir du Vietnam. Et le Canada a répondu en premier. Alors, yeah! Et puis là, il fallait écrire à différentes universités. Puis c'est l'école polytechnique de Montréal qui m'a accepté. Yeah encore. Et c'est toujours yeah, yeah, yeah. Mais aussitôt que quelque chose, ou bien que ce désir se manifeste, il y a un autre qui apparaît. Il y a un autre qui apparaît. Alors, tout ça pour vous dire que toute ma vie, j'ai vécu dans le futur, toujours attiré par des désirs pour des choses que je n'avais pas dans l'instant et que je considérais qui étaient la condition de mon propre, de mon bonheur. Et lorsqu'on va pratiquer le corps dans le corps, on ne peut pas être dans le corps si on est dans notre esprit, dans le futur. On est au Vietnam, mais on pense au Canada. Ou bien on voudrait être au Canada, donc c'est un obstacle. De la même façon, l'autre problème qu'on a aussi, c'est l'aversion, et qui est la même chose que le désir. Ou bien on voudrait quelque chose, ou bien on voudrait s'éloigner d'eux. Alors le désir et l'aversion font partie des mêmes obstacles. Et lorsqu'on est pris soit par le désir, soit par l'aversion, c'est par la pratique de la pleine conscience qu'on pourra réaliser, ah, je ne suis pas ici parce que je suis en train d'être tiré vers le futur ou tiré par le passé ou bien, ou bien que je veux m'éloigner du présent. Alors, c'est une force qui nous empêche d'être dans l'instant pour pouvoir être le corps dans le corps et pour pouvoir revenir à cette pratique que nous voulons faire. Alors donc, nous savons pourquoi nous voulons pratiquer, pour pouvoir éliminer les poisons. Nous savons que il faut revenir à l'instant, il faut revenir dans le corps pour pouvoir le pratiquer. Et on identifie aussi pourquoi on ne peut pas le faire. C'est toutes ces forces qui nous tirent, soit dans le passé, etc. Okay? Alors donc, le désir, l'aversion, c'est quoi le deuxième? La colère, ben c'est très difficile d'être dans l'instant, être en contact avec tout ce qui est en train de se passer. Et en même temps être consumé par la colère. Parce que la colère, c'est comme la douleur, c'est comme la souffrance. Ça prend toute notre pensée, ça prend tout l'espace. Et lorsqu'on est pris dans la colère, il n'y a plus rien qui existe. On est juste là. Et on brûle. Alors ce feu qui nous brûle à l'intérieur et qui nous anime et qui nous fait faire des choses, dire des choses, casser des choses, etc. C'est évident que c'est un gros obstacle. Et lorsqu'on est en colère et qu'on peut pratiquer la pleine conscience du corps, on pourra regarder comment ça se manifeste dans le corps et où ça se passe et essayer de calmer la colère par le corps, dans le corps. Mais on va le faire plus tard. Mais c'est juste se rappeler que la colère est un de ces obstacles et les cinq obstacles sont toutes des mesures de notre capacité de pratique ou de notre difficulté de pouvoir pratiquer. Alors, plus les obstacles sont grands et plus notre pratique va être difficile, et mieux notre pratique va être forte, plus notre pratique est forte et moins ces obstacles sont des obstacles. Alors donc, c'est à la fois quelque chose qui nous empêche de pouvoir pratiquer, mais on s'en sert comme une mesure de notre niveau de pratique. Et lorsque peu à peu, on pourra regarder ces obstacles juste comme quelque chose qu'on peut juste mettre le pied puis passer par-dessus, ça ne serait plus des obstacles insurmontables comme ça peut l'être maintenant. L'ennui. L'ennui, c'est, on a parlé longuement de l'ennui, et l'ennui, c'est cette ça alimente cette énergie qui est le désir. On n'est pas satisfait de ce qui est en train de se passer. On trouve que tout est boring. C'est plate, qu'est-ce qu'il y a à faire? Quand est-ce qu'on arrive? Pourquoi c'est... Quand le prochain McDonald's? Alors donc, quand on est dans cet ennui, c'est aussi des manifestations de beaucoup de choses. Alors ça peut être, je pense que j'ai mentionné la résistance de notre corps pour pouvoir nous mettre dans la pratique. Alors là, il nous donne toutes sortes de signaux bizarres, comme il nous donne sommeil, puis là on s'endort, puis on ne veut plus pratiquer, etc. Alors donc, l'ennui, c'est aussi quelque chose qui nous empêche de pouvoir et qu'on peut utiliser pour mesurer notre degré de pratique. L'ennui et la somnolence, est-ce que c'est la même chose? Alors donc, on a parlé aussi de la somnolence qui nous arrive lorsqu'on veut pratiquer la méditation assise. Et lorsqu'on pratique la méditation et qu'on est pris avec la somnolence, j'avais deux conseils que je vous avais passés, et ce sont des conseils que j'ai reçus. Premièrement, c'est on a sommeil parce qu'on est fatigué. Et lorsqu'on est assis en méditation, là, l'adrénaline, puis tout ça, on laisse aller, puis là, le corps parle, et puis la sommeil. Alors là, on va se coucher. Et que ça ne sert à rien d'essayer de forcer notre corps à faire des choses dont il n'a pas les ressources ou dont il n'est pas capable de faire. Alors donc, si vous vous endormez, ce que j'avais mentionné le mois dernier, c'est que c'est beaucoup plus confortable de dormir dans un lit que de dormir sur votre coussin. mais il faut faire attention parce que ça peut être aussi quelque chose qui nous parvient de l'esprit. Parce que l'esprit peut nous faire n'importe quoi. Même nous donner sommeil alors qu'on n'a pas besoin de dormir. Alors, si c'est le cas, comme par exemple, on peut évaluer notre vie pour dire, OK, j'ai dormi 12 heures la veille. J'ai bien mangé. J'ai pas trop mangé. Je n'ai pas bu ni de bière ni de cognac. C'est pas normal de dormir. Alors donc, c'est quelque chose d'autre. Et ça devient une piste pour pouvoir essayer de voir qu'est-ce qui ne marche pas dans notre corps. Alors ça aussi, ça va être une pratique que nous allons faire lorsque nous allons faire l'observation du corps dans le corps. Pourquoi? Mais il faut avoir passé à travers de cette investigation. Je m'endors, mais il n'y a aucune raison pour que je... Donc c'est quoi? Le doute. Alors, des fois, on est dans cette pratique pendant un an. Ça va bien, on est content, on est plus calme, puis tout ça. Et peu à peu, on se fait rappeler, ou bien on se rappelle que il y a beaucoup de choses encore qui sont là. Et que cette joie, ou bien cette discovery qui nous a fait, yes, l'effet s'estompe. Et on trouve que c'est plus tellement intéressant de pratiquer la méditation. Et puis mercredi soir, il fait froid, puis il y a une tempête de neige, les routes ne sont pas encore déblayées, puis, oh non, c'est beaucoup mieux à la maison, puis là on reste à la maison. On allume la télé et puis là, on embarque dans je ne sais pas trop, c'est quoi l'émission maintenant, Desperate Housewife. Et puis là, il arrête toujours Desperate Housewife, là où ça, il y a quelque chose qui se trame et puis on voudrait savoir ce que c'est. Et puis là, la nuit, on porte ça dans notre tête, puis on dort avec, puis oh, qu'est-ce qu'il va faire, ou bien qu'est-ce qu'elle va faire, puis est-ce qu'ils vont se réconcilier, puis est-ce qu'elle va la laisser. Et puis on attend une semaine. Et puis là, mercredi arrive encore, puis Chen Hui, Desperate Housewife, Chen Hui. Et vous savez, je dois en avoir rencontré des centaines, des milliers de personnes comme ça. Ça fait 25 ans que je fais ce métier. Et c'est ça, vous pouvez compter 5 personnes par semaine. Au bout de 25 ans, ça fait beaucoup de personnes. Et plusieurs que j'ai rencontrés ont été enflammés, emballés. Et leur flamme s'est éteinte. Et je les rencontre 3 ans après, 5 ans après. Alors c'est ça le phénomène du doute. C'est qu'on ne pense plus que cette pratique peut nous aider. Et je ne sais pas comment faire. Comment vous pensez qu'on peut faire pour maintenir cette croyance, cette foi, pas en Chenhui, mais en notre propre capacité à pouvoir être bien heureux. Parce qu'on sait, très bien que retomber avec Desperate Housewife, ou bien je ne sais même pas pourquoi j'utilise ce truc, ou bien c'est quoi l'autre Sex City. Et puis là, il y a aussi le hockey, puis il y a aussi le tennis, puis tellement de choses attrayantes. Et puis avec ça, c'est tellement mieux une bonne bière qu'une petite tasse de thé. C'est, un hockey, c'est... Puis là, on rencontre des amis à la taverne, puis on prend des paris, puis on retourne dans cette place où on était quelques mois, quelques années avant d'avoir connu la pratique. Et c'est pour ça que ce qui est important, et ça fait partie des 5 énergies dont je vous avais déjà parlé aussi, les 5 énergies qui nous permettent de pouvoir alimenter et nourrir notre pratique, ça commence par la foi. Il faut y croire. Il faut croire que nous avons la capacité de pouvoir nous en sortir. Il faut croire que cette façon de faire, c'est la façon. Et que s'il y a des difficultés en cours de route, ce ne sont que des obstacles. Mais qu'en arrière des obstacles, la voie se poursuit et continue pareil. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une communauté de pratique. Et c'est pour ça qu'on a besoin de support. Et c'est pour ça qu'on a besoin de conseils. Alors si un jour, vous trouvez... vous n'avez plus confiance, ou bien vous êtes ennuyé, ou bien vous ne croyez plus en cette pratique, ne lâchez pas, demandez, posez des questions. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Vous pouvez demander des questions aux personnes qui sont ici, parce qu'elles ont passé par là, et puis elles savent. Il y en a qui sont revenus 3 fois. C'est pas grave. Il y en a d'autres qui ne sont pas encore revenus, qui vont revenir, je le sais. Parce que tôt ou tard, notre corps va nous le rappeler. Notre corps va nous rappeler que il y a une place où tu veux retourner. Et on l'appelle l'île intérieure. Alors l'île intérieure en soi, c'est la pratique de l'observation du corps dans le corps. C'est la pratique du retour dans la sangha pour pouvoir pratiquer. Parce que la sangha, c'est un corps. Et nous sommes une cellule de ce corps. Alors c'est revenir dans la sangha, revenir dans notre corps, revenir dans le groupe pour pouvoir pratiquer ensemble. Ça c'est donc pour le doute. Et c'est un petit rappel de ce que nous avons fait le mois dernier. Pour ce mois, ce que je voulais vous partager, c'était les principes que nous devons nous souvenir pour pouvoir bien comprendre et pour pouvoir bien pratiquer les 4 établissements de la pleine conscience. Hier, le même enseignement ou bien la même matière s'est donnée par Internet pour les sanghas américaines. Et je leur ai fait un cadeau. Et je vais vous le faire aussi aujourd'hui parce que vous êtes mes amis. Je leur ai partagé mon gata de pratique ou mon gata, pas mon gata de pratique, mon gata de transmission de la lampe. Alors, lorsqu'on devient un enseignant du Dharma, dans la lignée de Thai Thich Nhat Hanh, il nous donne une lampe. Et ça s'appelle la lampe de l'éveil. Et il nous demande d'organiser notre vie de telle façon à ce que cette lampe-là continue de briller et d'éclairer pour toutes les générations qui suivent. Et c'est comme ça que l'enseignement du Bouddha s'est transmis de génération en génération, de maître en maître jusqu'à nos jours. Et c'est pour ça qu'on peut encore pouvoir être éclairé par ces enseignements qui datent de plusieurs millénaires déjà. On essaie chacun, avec notre petite lampe, de faire ce qu'on peut. Ce n'est pas comme le soleil, ce n'est pas comme la lampe du Bouddha qui reste. Alors, notre lampe, on doit l'alimenter. On doit mettre de l'huile de temps en temps dedans, il faut l'entretenir, il faut... afin de nous permettre de pouvoir bien le faire, le maître nous donne, avec la lampe, un enseignement particulier, très pointu, qui reflète sa vision sur l'élève et sur ce que l'élève doit pratiquer pour pouvoir s'améliorer, pour pouvoir grandir dans la pratique. Alors, celui qu'il m'a donné, c'est très en ligne avec cet enseignement. C'est pour ça que je voulais vous le partager, parce que c'est la pratique que j'ai fait depuis que j'ai reçu la lampe en 94 et que je continue de faire et que je continue de découvrir à chaque fois que j'ai la chance de pouvoir y penser ou de le faire. Le gata en vietnamien, c'est chân tâm một biểu lộ. Chân tâm, c'est la vraie nature. La vraie nature, lorsqu'elle se manifeste, Pháp giới sẽ quang huy, le Dharmakaya va éclairer, va illuminer, va s'illuminer. Alors, Dharmakaya, c'est le corps, c'est une partie du corps du Bouddha. Alors, le Bouddha a plusieurs corps. Il y a le corps physique qu'il avait et qui a disparu ou bien qui s'est éteint ou qui s'est transformé il y a 2000 ans. Il y a celui qui reste et qui se poursuit, qui est le corps du Dharma. Alors l'enseignement, tous les enseignements du Bouddha représentent la partie qui reste avec nous. Alors il y a trois parties dans le Bouddha. Il y a la partie du corps physique, le Bouddha Kaya. Il y a le Dharmakaya qui est son enseignement, qui se poursuit et qui continue de vivre, même s'il est mort depuis, va se poursuivre, et le Sanghakaya, alors le corps de la Sangha. Alors le Bouddha est composé de ces trois composantes-là. Alors une fois, lorsque la vraie nature se manifeste, le Dharmakaya va éblouir, va s'illuminer. Tuệ nhật, chiếu thực địa. Le soleil, tuệ, c'est wisdom, la sagesse. Nhật, c'est le soleil. Alors, le soleil de la sagesse va éclairer la terre de la réalité. Thông dung từng bước đi, et tu pourras marcher paisiblement sur cette terre. Et je vous le dis et j'ai les frissons parce que c'est ce que j'ai reçu comme enseignement ou comme objectif de pratique. Et c'est ce que j'essaie de pratiquer afin de pouvoir réaliser le sens très profond de cet enseignement. Alors, mon travail, c'est d'essayer de découvrir cette vraie nature en moi et autour de moi. Parce que la vraie nature qu'il y a en moi n'est pas différente de la vraie nature qu'il y a partout ailleurs. Afin de pouvoir voir, afin de pouvoir faire illuminer, afin de pouvoir faire s'éclairer le Dharma. afin que le Bouddha puisse renaître en travers de ses enseignements. Et une fois que cet éclairage va commencer à se manifester, je pourrai, avec cette lumière de la sagesse, voir la terre de la réalité, c'est-à-dire voir les choses telles qu'elles sont, et marcher de façon paisible sur cette terre, c'est marcher avec les pieds du Bouddha. Alors, merci d'être là pour m'aider dans cette aventure ou dans cette investigation. Mais lorsque nous allons pratiquer cette année les quatre établissements de la pleine conscience, c'est avec les cinq obstacles, c'est avec les principes et c'est aussi en fonction de cette vision que je le fais, pour pouvoir savoir où je m'en vais et pourquoi je vais y aller. Alors donc, les principes de pratique. Le premier principe de pratique, c'est qu'on a souvent tendance à penser que l'esprit et les objets de l'esprit sont deux choses qui sont séparées. Que notre corps et notre esprit sont aussi deux choses séparées. Et c'est une erreur. C'est une ignorance. Alors, il faut se souvenir de ce principe-là pour pouvoir pratiquer. Je sais que on n'est pas encore prêt de reconnaître cela ou de comprendre cela, mais gardons-le quelque part dans notre, je ne sais pas où, lorsque nous allons pratiquer que l'esprit est à la base de tout, que l'esprit est le maître painter, master painter, et il est capable de dessiner n'importe quoi. Et tout ce que nous voyons, tout ce que nous percevons, tout ce que nous sentons, ne sont que des manifestations de l'esprit, ne sont que des choses qui nous dessinent, qui nous peinturent, qui nous mettent dans la face. On regarde ça, puis on prend ça pour la réalité. Mais ce ne sont que des manifestations de l'esprit. Et lorsque nous allons pratiquer l'observation du corps dans le corps, et pourquoi on appelle le corps dans le corps? Parce qu'on a trop tendance à nous couper en petits morceaux. On est quelqu'un qui observe quelque chose. Alors lorsqu'on dit j'observe mon corps, on pense qu'il y a un je qui observe quelque chose d'autre. Mais ces trois choses ne sont qu'une seule chose, l'esprit. Alors si on se met là, puis on regarde notre corps, it's wrong. Parce qu'on n'est plus dans notre corps et ce n'est plus ça la pratique. La pratique, c'est l'observation du corps dans le corps. Il faut être là. Alors, donc, ça, c'est une chose qui est importante à se souvenir lorsque nous allons pratiquer le corps dans le corps. De la même façon, et je pense que je l'ai dit, alors, donc, c'est juste une autre façon de le voir, c'est que celui qui observe et l'objet d'observation ne sont pas différents. Parce que c'est tout l'esprit. Alors, lorsque je vous regarde, je ne peux pas dire que je suis là et je vous regarde. Parce que juste le fait que je vous reconnais et que je vous... c'est que vous êtes déjà en moi. Alors, je ne peux pas dire que vous êtes à l'extérieur de moi. Vous ne pouvez pas dire que je suis à l'extérieur de vous. Je vous regarde. Mes yeux ont capté une forme. La forme est rentrée... je ne sais pas trop quoi, à travers de la conscience visuelle. Et cette conscience visuelle, c'est une partie de la conscience. Alors, vous faites partie de ma conscience. vous êtes en moi. Alors donc, celui qui observe, l'observateur et l'objet observé, c'est une chose, la même. Et c'est quelque chose que de plus en plus les scientifiques doivent reconnaître, parce que les scientifiques regardent des choses avec un microscope qui essaie de voir comment les gènes marchent et puis tout ça. Juste leur présence affecte le phénomène déjà. Alors ce qu'ils observent, ce n'est pas le vrai phénomène parce qu'ils sont dedans. Et puis à moins de reconnaître qu'ils sont dedans, ils ne pourront jamais voir ce qui est en train de se passer. Et je pense que les scientifiques commencent à reconnaître cette chose-là, qu'ils doivent faire partie de l'expérience et non pas regarder comme un spectateur. Je parle des poisons et je parle des obstacles et je parle de la transformation et de la je parle de la transformation. Et c'est là le mot transformation. On ne peut pas couper ou jeter ou se débarrasser des poisons. Et on avait un tableau, puis ça va revenir aussitôt qu'on aura les crochets qu'il faut pour ne pas endommager nos beaux murs, pour les suspendre du plafond. Il y avait un poster qu'on avait, un cadre qu'on avait qui est maintenant dans la salle d'entrepôt. Où ça dit no lotus, no mud, no lotus. Moi, je fais rien, j'ai rien fait. J'ai pas touché. Vous le voyez, mes mains sont là. Et pourquoi on dit pas de boue, pas de lotus? C'est parce que le lotus ne peut pas pousser sur un plancher de marbre. Alors le marbre est très beau, la boue, ça sent mauvais, c'est puant, mais ça prend de la boue pour pouvoir avoir des lotus. Et vouloir un lotus sans avoir de boue, c'est impossible. Ça va? Vous semblez douter de ce que je suis en train de dire. Non, ça va? Ok. Ben, à moins que vous puissiez me dire qu'on peut aussi... Non? Okay. Donc, ça prend de la boue. On est d'accord? Okay. Et de la même façon, lorsqu'on travaille avec les poisons, on pense que les poisons, c'est quelque chose qu'on pourrait juste demander à un chirurgien de couper puis de jeter. Mais ça ne peut pas marcher comme ça. De la même façon que... Et mon maître nous l'a rappelé à la retraite où on vient d'être la semaine dernière encore. Regardez ce crayon. Puis là, vous faites partie de... Ok. Ça, c'est gauche, droite. Ok. Ma gauche, votre droite. Okay. Et là, vous dites, j'aime pas du tout la gauche. Je veux seulement la droite. Pouvez-vous le faire? C'est impossible d'avoir la droite sans la gauche. Et la droite est faite de la gauche, et la gauche est faite de la droite. And it's a whole package deal. Et c'est ça la vie. On ne peut pas jeter la droite, je veux dire, on peut essayer. Puis... Là, il y a notre droite qui apparaît. Et on peut le faire. Et puis la seule façon de se débarrasser de la droite, c'est de... Tout le tel crayon, puis c'est pas ça qu'on veut. Alors donc les poisons, ou bien on appelle ça en anglais les deluded mind. Deluded mind. Traducteur, please. C'est ça, c'est un esprit qui ne confondu, tordu, mêlé. Et ce qu'on recherche finalement, c'est ce que je vous avais donné dans mon gata de transmission. Tiang Tam, la vraie nature. Parce qu'on pas la pas ce que nous percevons qui est tout croche, mais la vraie nature. Et la vraie nature et cette deluded mind, c'est la même chose, c'est le même mind. Alors, essayez de se débarrasser du deluded mind pour trouver le true mind. C'est une illusion, puis c'est impossible à faire. Alors, c'est accepter ce qui est là, parce que c'est seulement ce qu'on a, puis c'est seulement avec ce qu'on a, incluant nos colères, nos ennuis, tous les obstacles, tous les poisons, et travailler avec ça pour pouvoir atteindre par la transformation cette terre pure, cet esprit clair qui est en train de se passer ici et maintenant. Alors donc, comment on peut dire true mind? Alors, vous comprenez pourquoi j'ai besoin d'amis pour traduire. L'autre chose que nous devons nous rappeler, c'est que notre pratique, c'est une pratique non violente. Nous pratiquons l'amour, nous pratiquons la paix. Alors donc, tout ce qui est violent, ça ne fait pas partie de cette pratique. Et où est-ce qu'on se fait le plus de violence? Ou bien à qui on se fait le plus de violence? En général, on se le fait à soi. Et ça me fait penser à une anecdote, une histoire dans le temps du Bouddha. Et c'était je ne me souviens plus du nom du roi, mais à un moment donné, il est rentré, puis il a vu sa femme, et puis il ne sait pas trop ce qu'elle faisait, elle était occupée. Puis là, il a dit, est-ce que je peux avoir ton attention? Est-ce que je peux te parler? Ok. Puis, quand il a eu toute son attention, le roi a demandé à son épouse. On appelle-tu un roi, une épouse? Non. Est-ce qu'il avait des harems dans le temps? Ok, je vais changer de religion. Alors donc, il a posé la question à la reine. Il lui a demandé, je ne sais pas comment il s'appelait chéri, en tout cas chéri, selon toi, qui est ton pire ennemi? Puis avant d'avoir posé cette question, selon toi, c'est qui la personne qui t'aime le plus? Alors, je vous laisse répondre vous-même à cette question-là. J'ai trouvé que, pour moi, si j'étais reine et que mon roi m'aurait demandé ça, j'aurais été très gêné de lui dire, vous savez, mon roi, peut-être que vous aimez que je vous dise que vous êtes la personne que j'aime le plus, mais je mentirai. Parce que c'est moi que j'aime le plus. Et puis, en général, c'est ça qui se passe. On s'aime. Et la deuxième question... je devrais encore malheureusement répondre que je suis aussi la personne qui me fait le plus de tort et qui me cause le plus de souffrance. Alors je suis la personne qui m'aime le plus, mais je suis aussi celle qui me fait le plus souffrir. Alors je vous invite à regarder cela pour votre propre cas. Mais c'est un peu ces réalisations qui me font pratiquer le corps dans le corps. Parce que je me suis aperçu que toute ma vie, et j'ai 61 ans maintenant, j'ai abusé de mon corps et j'ai utilisé mon corps comme si c'était un cheval. Un cheval que j'empêchais de dormir quand il a besoin. Un cheval que je refusais de mettre au repos, même s'il en avait. Un cheval que j'ai amené dans des bars, un cheval que j'ai intoxiqué avec de l'alcool et de la drogue, j'ai abusé de mon corps. Et pourtant, qu'est-ce que j'ai de plus précieux dans cette vie? Et je regarde autour de moi et je pense qu'il n'y a rien qui puisse avoir plus d'importance que mon propre corps pour moi. J'en ai un seul. Il était là depuis que j'étais né et il va m'accompagner jusqu'à ma mort. Il sera toujours là, avec moi. Mais est-ce que je serai là? Est-ce que j'ai été là? Pas très souvent. Mon meilleur compagnon, mon seul compagnon de vie, que je peux appeler compagnon de vie, a toujours été là, mais est-ce que j'étais là? Non, parce que quand mon corps était au Vietnam, j'étais au Canada. Et puis quand mon corps était au Canada, était rendu au Canada, j'étais rendu je ne sais pas où. Alors, est-ce que vous êtes votre meilleur ami? Est-ce que vous êtes la personne que vous aimez le plus? Si c'est le cas, retournez chez vous, puis occupez-vous-en. Ça, c'était. En tout cas, on est rendu ici, mais je voulais revenir ici. Excusez-moi. Donc, on parlait de non-violence. Et en parlant du corps, et ce que je voulais vous partager, c'était que on s'est donné beaucoup de violence. Et la pratique que nous voulons, c'est une pratique de paix et d'amour. Et c'est ça qu'il faut se souvenir lorsque nous allons pratiquer les quatre entraînements à la pleine conscience, les quatre établissements de la pleine conscience. The way of non-conflict, c'est-à-dire, et ça suit aussi le true mind, c'est de ne pas se transformer en champ de bataille, mais d'accepter et d'aimer tout ce qui est là, ici et maintenant. Ne pas essayer de se débarrasser de la gauche ou de choses que nous n'aimons pas. Souvenons-nous du désir et de l'aversion. Toutes ces choses-là ont leur place, ont leur raison d'être et sont précieuses. Et on doit toutes les embrasser et les traiter avec amour et tendresse. Pourquoi? Parce que c'est nous. On se souvient? Je suis la personne qui m'aime le plus. Ça aussi, ça fait partie de moi. Alors, je vais aimer comme je dois aimer tout le restant. Et si il y a des choses que je n'aime pas, je suis en train de faire de la discrimination. Je suis en train de pratiquer le dualisme. Je suis en train de pratiquer la séparation et la discrimination à l'intérieur de moi. Il y avait un dernier, mais je ne sais pas pourquoi j'ai mis seulement 4 points. Alors le cinquième point, c'est de se souvenir que lorsque nous allons pratiquer l'observation, qu'il y a une façon de faire qui s'appelle l'observation pure et simple. C'est-à-dire qu'on observe sans juger ni réagir. On regarde. On regarde de l'intérieur vers l'extérieur. Et on regarde sans jugement ni réaction. On ne fait qu'observer. Alors, l'observation, c'est reconnaître, identifier, et l'appeler par son vrai nom. Call me by my true name. Et l'image que nous avons entendue ce matin est une très belle image pour faire cela, et je vais vous la relire. Moine, imaginez un sac que l'on peut ouvrir aux deux extrémités et qui contient toutes sortes de graines. Riz complet, riz sauvage, soja vert, haricots blancs, sésame, riz blanc. Si une personne qui possède une bonne vue ouvre le sac, elle reconnaîtra clairement toutes les graines de ce sac, Ceci est du riz complet. Voilà du riz sauvage, du soja vert, des haricots blancs, des graines de sésame et du riz blanc. Il ne dit pas mauvais riz brun, bon riz blanc. Ceci est du riz blanc. Tu l'appelles par son nom. Juste ça. Et c'est ça l'observation. Alors c'est ça le dernier principe pour la pratique. Là, vous allez me demander quand est-ce qu'on va pratiquer. Donc, avec les 5 obstacles, les 3 poisons et ces 5 principes, nous sommes prêts à nous engager dans la pratique. Et la pratique, c'est quelque chose que nous avons fait depuis toujours. Depuis que nous avons commencé cette pratique. Et ceux qui sont ici doivent avoir l'entendu et pratiquer au moins 5 millions, sinon ce n'est pas 10 millions de fois déjà. J'inspire, je sais que j'inspire. J'expire, je sais que j'expire. J'inspire une longue inspiration, je sais que j'inspire une longue inspiration. J'expire une longue expiration, je sais que j'expire une longue expiration. J'inspire une courte inspiration, je sais que cette inspiration est courte. J'expire une courte expiration, je sais que cette expiration est courte. L'observation, l'appeler par son vrai nom, sans juger ni réagir, juste identifier. On n'intervient pas avec notre respiration, on ne l'allonge pas, on ne la raccourcit pas, on observe tout simplement. On observe avec notre esprit. L'esprit est la partie qui observe. La respiration est l'objet de l'observation. L'objet de l'observation est l'observateur. L'esprit et l'objet de l'esprit sont un. Alors ce que nous sommes en train d'observer, nous sommes en train d'observer notre esprit en même temps. Alors c'est l'esprit qui observe l'esprit, c'est l'esprit qui observe dans l'esprit. L'esprit observe l'esprit dans l'esprit. Et où est-ce qu'il se trouve l'esprit? Avec la chose avec laquelle elle est, dans la respiration. Où est-ce qu'elle est la respiration? Dans notre corps. Et tout devient un. La personne, l'esprit, la respiration, le corps, l'observateur, l'objet observé, tout ça ensemble. Alors donc, la pratique de la respiration consciente que nous avons fait jusqu'à date, je ne sais pas jusqu'à quel point nous l'avons fait, mais c'est un peu comme ça maintenant que j'essaie de le voir et de le pratiquer. Non pas comme Tian Hui ou l'esprit Tian Hui qui observe sa respiration, ou bien qu'il regarde son ventre, et puis tout ça, mais d'essayer de tout ramener, afin que tout soit ensemble. Donc, c'est les 4 exercices, c'est la conscience de la respiration, suivi de la respiration. Alors donc, c'est pratiquer la respiration consciente, pratiquer le suivi de la respiration est longue, je sais qu'elle est longue, elle est courte, je sais qu'elle est courte. Conscience du corps, lorsque je parle du conscience du corps, dans l'enseignement, ça veut dire unicité du corps et de l'esprit. Et c'est réaliser le premier miracle de la pleine conscience. Alors, comme je vous l'ai décrit, le corps et l'esprit deviennent ensemble. Pendant très longtemps, j'avais parlé de l'unicité du corps et de l'esprit comme, ok, là je pense à quelque chose, je ramène, je suis ici, donc je suis là, corps et esprit ensemble. Mais comme n'importe quelle pratique de méditation, aussitôt que vous touchez à un résultat, n'arrêtez pas là. Ce serait trop simple. Et puis ce serait plate aussi. Et puis c'est pour ça que l'ennui arrive. Ah, oh, c'est juste ça. Plusieurs m'ont dit, mais pourquoi ça fait 20 ans, puis tu fais juste, comment il dit, respire et souris. Est-ce qu'il y a d'autres choses que ton maître t'a enseigné? C'est vrai, c'est tout ce qu'il m'a enseigné. C'est pas très original, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Mais c'est sous-estimer ou bien c'est se limiter à une compréhension très superficielle. Et de la même façon, toutes les pratiques qui sont enseignées ici peuvent, et plusieurs l'ont déjà fait, nous mener à rien de moins qu'à l'éveil complet. La pratique de tous les saints, la pratique de tous les bodhisattvas, la pratique de tous les bouddhas, c'est cette pratique, les quatre établissements de la pleine conscience. Alors, faisons-le. Conscience du corps. Combien de fois vous en avez entendu parler? J'inspire et je prends conscience de mon corps tout entier. J'expire et je calme et pacifie mon corps tout entier. 50 fois qu'il me l'a dit, puis il le répète encore. Et cette année, nous allons faire mieux que ça. Imaginez un sac de bin ouvert aux deux extrémités qu'on pitche par terre. Identifiez, ceci est un grain de riz blanc, ceci est une graine de sésame. Imaginez le nombre de graines que vous pouvez avoir dans votre corps à identifier. C'est tout une job. Alors lorsqu'on dit « je prends conscience de mon corps tout entier », comment on peut prendre conscience de son corps tout entier si on ne sait même pas qu'il est là? On s'en aperçoit seulement lorsqu'il est malade. Lily, maintenant, elle sait qu'elle a un corps. Parce que son corps le lui rappelle à chaque instant que ça fait 60 ans qu'elle ne s'est pas occupée de son corps. Là, elle est heavily drugged. C'est quoi les médicaments qu'elle prend? De la morphine. À toutes les 4 heures. Alors vous imaginez l'état dans lequel elle est? Droguée. Alors pourquoi? Elle a ignoré son corps pendant 62 ans. Son corps lui rappelle très... Je suis là. Et là, elle a un bon docteur qui lui donne des médicaments pour qu'elle ne l'entende même pas. Parce que ça fait quoi la morphine? Tais-toi. Donc c'est la pratique de l'oppression qui continue. Et pourquoi mon enseignement a tellement changé cette année? C'est parce que j'ai reçu beaucoup de boue. Alors ce que vous voyez maintenant, ce que vous entendez, c'est le lotus qui est en train de sortir de cette boue. Et parmi la boue que j'ai connue, c'est la maladie de la personne qui m'est très chère, Lily. Et je voudrais vous souhaiter de ne jamais avoir à recevoir ces signaux-là. Retournez dans votre corps maintenant, pendant qu'il est encore temps, pour pouvoir rétablir la paix, travailler avec et s'en occuper. Je ne dis pas que vous serez exempt de maladie. Ce n'est pas vrai. On est sujet à maladie. On va tous être malades, puis on va tous avoir de la douleur. Un cancer va se manifester un jour. Quelque chose. Ce n'est pas grave. Ça va venir. Mais donnons-nous les chances que nous pouvons maintenant. Il y a trop de personnes qui attendent. Steve Jobs. Il a été malade il y a quelques années. Il est sorti de la business, on l'a ramené. Est-ce qu'il était guéri? J'en doute. l'Arlayton, c'en est un autre, ou bien le fameux médecin qui est sorti de son cancer, puis qui a écrit des tas de livres, qui a donné des tas de conférences, puis qui est mort à 55 ans. Schreiber. Et ce sont des noms, parce que ce sont des noms qui sont célèbres. Mais à chaque jour, il y a des milliers de personnes qui passent aux urgences et à l'hôpital pour toutes sortes de choses comme ça. Et ça va nous arriver aussi. Et la seule chose que je nous souhaite, c'est de pouvoir nous dire, j'étais bon avec mon corps, ce qui arrive doit arriver, je me suis donné toutes les chances que je pouvais. Et non pas le regretter. Alors la pratique du corps dans le corps, c'est une pratique essentielle. Parce que lorsqu'on n'a plus notre corps, ou lorsque notre corps se met à parler, parce qu'il c'est pas qu'il nous en veut, c'est pas parce qu'il se révolte, ce n'est pas parce que il veut nous donner une leçon. Ben, c'est une leçon, oui, mais il ne le fait pas exprès. Il n'en peut plus. Il tombe parce qu'on en a abusé. Ce n'est pas de sa faute. Alors donc ça, c'est le corps physique et c'est très évident. Mais il y a une autre chose aussi, et c'est là pourquoi je vous ai parlé de la pratique Theravada et des moines de la forêt Thaï. Ils pratiquent cet enseignement très sérieusement. En les regardant, en les lisant, je me suis souvenu d'une réalité, d'une vérité, d'un enseignement du Bouddha. Pas un enseignement écrit, ni parlé, mais sa propre vie. Si vous avez appris l'histoire ou bien la vie du Bouddha, vous vous souvenez que le Bouddha a failli mourir en pratiquant l'austérité. Il a ignoré son corps. Il a dit, oh non, c'est avec l'esprit que je vais m'éveiller. Il a rencontré un tas de maîtres qui lui ont dit la même chose. Il a fait des voyages cosmiques, il a traversé tout ce qui était possible, imaginable. Il a fait toutes les planètes, toutes les civilisations. Jusqu'à ce que son corps lui dise, hey, va jouer si tu veux, moi je ne joue plus. Alors il était tombé là, puis je ne sais pas combien de temps, avant que cette jeune fille le trouve et lui donne une petite cuillerée de lait, puis une autre cuillerée de lait qu'il n'a même pas pu avaler de lui-même et qu'il a remis en vie. Et après ça, il a compris. Je ne peux rien faire sans mon corps. L'éveil n'est pas possible sans le corps. Ça peut être seulement des manifestations de l'esprit. Tu peux faire des voyages cosmiques, tu peux t'amuser. Lorsque tu vas revenir ici, dans ton corps, si je ne suis plus là, tout bad. Et c'est la première leçon du Bouddha. Et comme bouddhiste, si on n'a pas appris ça, on n'a pas de très bons élèves. Et je n'ai pas été un très bon élève, j'ai oublié ça aussi. Et je sais que lorsqu'on entre dans cette école, c'est très intéressant, c'est très in, cool, de parler d'impermanence, de parler d'interdépendance, de parler d'inter-être, de parler de toutes sortes de la main, ou bien du son d'une main qui claque, et puis du doigt qui monte la lune. Et je peux vous dire que c'est ça qui m'a attiré dans cette tradition. C'est des challenges intellectuels. Et c'est vrai, c'est excitant, c'est beau. Le moine qui est là, puis qui se demande où est la montagne, puis ah, la montagne est là, ou bien le poisson dans l'eau qui nage, où est l'eau de mer. Puis... Mais tout ça ne fait que alimenter mon esprit. Et là, mon esprit en voulait plus, parce que hey, c'est le fun, c'est cool, puis là, tout le monde t'écoute, puis te trouve intéressant, puis là, tu vas dans la barre, puis tu commences à parler de zen, puis tout ça, puis te peine, en tout cas. Alors, juste pour revenir à ce que nous parlions, c'est une erreur que le Bouddha a fait. Alors, moi, simple élève, c'est normal que je fasse la même erreur. Ben, ce n'est pas normal, parce que s'il a fait l'erreur et qu'on a vu l'erreur, pourquoi est-ce qu'on doit rentrer dans la même erreur? Alors donc c'est ça que je voudrais me souvenir maintenant. C'est que oui, c'est bien beau, toutes ces belles théories de 7 voies, de 6, puis de 12 liens, de... Comment ça s'appelle, les links? Les 12 liens de causalité, puis les 4 nobles vérités, ou les 8 branches du chemin octuple, et les 5 entraînements à la pleine conscience, et les 205 et les 225 des moines. Tout ça doit se passer dans le corps, avec le corps. Si on n'a pas de corps, si le corps n'est pas là, si le corps est malade, si le corps ne suit pas, forget it. Alors donc cette année, on va tout oublier ce qui est... On n'a pas besoin de ces choses-là. On va s'occuper de la base, s'occuper du corps. Alors donc, bon exercice, comptez vos bines, vos graines, etc. Et il y a 4 exercices. Ok, respiration, suivi, conscience du corps, calmer le corps. Et ce sont des exercices que nous avons déjà tous faits, que vous connaissez tous déjà, le body scan. Alors donc, le body scan, c'est une pratique qui est très importante et que je nous conseille, que je nous invite à pratiquer régulièrement chez nous, dans notre vie de tous les jours. J'inspire et je prends conscience des cheveux sur ma tête. J'expire et je prends conscience. J'essaie de garder conscience sur mes cheveux, à mes cheveux, sur ma tête. Je dois les gratter pour m'en souvenir que c'est là. Je ne peux plus les tenir parce qu'ils sont trop courts, etc. Mais essayer de vraiment être avec chaque partie de notre corps. Lorsqu'on sera bien, lorsqu'on pourra le faire, le body scan, ce qui est intéressant, c'est surtout rentrer à l'intérieur du corps. Rentrer à l'intérieur du corps pour pouvoir être en contact avec chaque partie, chaque organe. Alors là-dedans, ce n'est pas très beau comme image, mais ce corps est recouvert de peau. Puis la peau, des fois, elle gratte un peu, plein d'impuretés. Ben, une chance qu'on a une douche et puis on prend notre douche de temps en temps. Vous savez quoi, dermatologue me dit que je ne devrais pas prendre ma douche aussi souvent. Et il faut surtout pas prendre la douche avec de l'eau chaude. Et puis il faut jamais rester dans la douche plus qu'une minute ou deux. Seulement se laver les parties, quelques parties importantes. Rentrer, sortir aussitôt que possible, de l'eau à la température la plus basse que possible, et se huiler aussitôt qu'on sort de la douche. Très différent de ma pratique habituelle, mais en tout cas. Alors donc, ce corps est recouvert de peau pleine d'impuretés. Cheveux, poils, ongles, dents, peau, chair, cartilage, os, moelle, rein, cœur, foie, vésicule biliaire, poumon, intestin, mésentère, c'est quoi? Mésentère. Oh, ok. Excréments. Vous riez, n'oubliez pas non-discrimination. Ok? Bile. Flemme. Pu. Ça va, docteur? Sang. Sueur. Graisse. Okay. Larmes. Séboum. C'est quoi? Ah, ok, c'est ça qui fait l'acné? Okay. Salive, mucosité, synovie, urine. Alors, donc, ça, c'est toutes les graines qu'on doit identifier. Mais je ne sais pas, ceux que je n'arrive même pas à prononcer et ceux que je ne peux même pas m'imaginer comment je dois aller les chercher pour pouvoir être avec. Et c'est ça notre pratique. Ce n'est pas juste de lire, mais c'est d'être avec. D'être avec, non pas d'être avec à côté, d'être avec à l'intérieur d'eux. Ceci est excrément, on est excrément, on est dans l'excrément, on est avec, on est dedans. C'est comme ça la pratique de l'observation, du corps dans le corps. Et avec cette pratique du corps dans le corps, donc je vais reprendre mes cours de biologie, on pourra, une fois qu'on en a pris conscience, c'est-à-dire être avec, identifier, être avec, l'appeler par son vrai nom, on pourra le calmer. Et ça, c'est les quatre exercices pour le mois jusqu'à la prochaine journée de pleine conscience. Et c'est une pratique de transformation profonde, transformation à la base, parce que notre corps est composé de toutes ces différentes composantes. Chacune de ces composantes est constituée de beaucoup de cellules. Et chaque cellule contient toutes les autres. Ce matin, lorsque Catherine nous a guidés dans la méditation, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle nous a demandé de faire. J'inspire et je sens que chacune de mes cellules gonfle. Et c'est ça la pratique de l'observation. C'est pas juste les poumons, c'est pas juste le ventre. Tout le corps respire. Toutes les cellules respirent. Et c'est de pouvoir le voir. Et on ne peut pas le voir si on n'a pas pratiqué le retour puis la conscience du corps. Alors jusqu'à date, ce qu'on a fait, c'est observer votre abdomen. Alors donc, oui, l'abdomen, c'est bien beau, mais tout le reste du corps est aussi en train de respirer. Mieux que ça encore. Notre corps, non seulement il est notre compagnon, mais c'est là aussi que tout s'accumule. Alors, lorsqu'on va avoir appris et pratiqué ces quatre exercices, on verra que ces quatre exercices comprennent aussi toutes les 16 autres, parce qu'il y en a 20 qu'on va faire. Mais, on va reconnaître que tout ce qui arrive devient un signe qui reste dans notre corps de façon indélébile. Même si on a oublié dans notre mémoire, ça reste dans notre corps comme une marque à vie. Non pas seulement à un endroit précis de notre corps, mais dans chaque cellule de notre corps, c'est imprégné comme une mémoire. Et lorsqu'on parle, par exemple, de colère, chaque fois qu'on a une crise de colère, et qu'on pratique la conscience du corps, on pourra s'apercevoir où ça se manifeste dans notre corps. Il y a plein de choses qui se passent dans notre corps. On devient tout rouge, on respire plus fort. Et puis, la pratique de la conscience du corps est cette pratique qui nous permet d'identifier qu'est-ce qui se passe dans notre corps lorsque certaines choses arrivent. Parce que lorsqu'on sera sorti de la crise de colère, cette chose-là reste dans notre corps. Et la prochaine fois qu'on va être encore en colère, c'est les mêmes parties qui vont encore se remanifester. Et vous imaginez-vous le nombre de fois que vous les avez sollicitées? Ils ont appris à être comme ça. Et ce qui est pire, c'est que c'est devenu une habitude et une alimentation pour ces parties du corps. Il y a des personnes qui veulent absolument, qui ont besoin d'être en colère. C'est drôle, hein? Mais sans colère, ils n'existent plus. Ils ne peuvent pas ne pas être en colère. Ça leur prend quelque chose ou quelqu'un contre qui être en colère Pourquoi? Parce que le corps a besoin de cette alimentation. Parce qu'il a été habitué à être alimenté et ne peut plus ne pas s'en passer. La pratique du corps, c'est cette partie qui nous permet de pouvoir revenir dans le corps pour voir comment, où ça se manifeste. Et lorsqu'on parle de calmer le corps, c'est de cette partie du corps que nous voulons aller voir pour pouvoir le calmer. La colère ne se règle pas avec les idées et l'esprit. Ça se règle en calmant le corps là où il se manifeste. Alors la technique de massothérapie, c'est une merveilleuse chose aussi. Elle est là, puis elle vous... Et puis là, oh, il y a un nœud ici. Mais le nœud n'est pas apparu tout seul. Il y a quelque chose qui a créé ce nœud. Massothérapeute ne peut pas le savoir. Cette pratique nous permet de le savoir. Alors oui, la massothérapeute peut nous aider à délier ces liens et ça nous donne un soulagement temporaire. Mais la mémoire est encore là. Et la prochaine fois, ça va encore s'activer. Alors donc, dans chacune de nos cellules, dans chaque partie de notre corps, il y a une histoire. L'histoire que nous lui avons créée. Et notre travail, c'est d'aller pour revoir notre histoire. Pour pouvoir les soulager, pour pouvoir les en sortir, pour pouvoir les... Et c'est ça la réalisation, et c'est ça l'éveil. L'éveil, c'est lorsqu'on aura été en contact avec chaque partie de notre corps, qu'on aura identifié exactement, ou bien qu'on aura, leur aura parlé, afin qu'ils puissent nous dire c'est quoi leur histoire, c'est quoi l'histoire de notre vie, parce que, et avant, ils pourront nous le dire, ils pourront nous l'expliquer, et c'est ça qui devient notre vrai chemin de pratique, ce n'est pas les huit nobles vérités, ce n'est rien de ça. C'est notre corps qui va nous dire, fais ça, et fais ci. Et puis il saura quoi faire. Parce que lorsque nous pratiquons les cinq entraînements à la pleine conscience, ou les huit branches du chemin octuple, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes en train encore d'opprimer notre corps pour faire des choses que notre tête pense que nous devons faire. Est-ce qu'on a demandé avis à notre corps? Est-ce qu'il aime ça, se lever à 4 heures du matin pour s'asseoir? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais demandons-le lui. Parce que si nous pensons qu'on doit se lever à 4 heures du matin pour s'asseoir, pour ding, 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 pour pouvoir atteindre whatever, c'est encore une autre ambition, c'est encore un autre désir d'atteindre quelque chose et d'amener ou bien d'exiger que notre corps fasse pour pouvoir satisfaire une autre idée. Même l'idée d'enlightenment, d'éveil, ne devrait pas être la raison de ou la cause de ou voilà. C'est là. Donc, merci beaucoup pour votre présence, votre attention. C'était passionnant. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. C'est pour vous partager la pratique que je suis en train de faire. C'est pas que je fais toutes ces choses-là, c'est ce que je me donne comme pratique pour l'année qui suit. Et donc, je vous invite à pratiquer avec moi. Merci.